Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes, en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume. Je produis, j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Aujourd'hui, nous rencontrons à nouveau M. Nicolas Cadenne, juriste, consultant, formateur, ancien haut fonctionnaire, spécialisé dans le droit public, homme politique, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité rattaché au Premier ministre de 2013 à 2021 et homme d'association. Par exemple, nous travaillons ensemble pour l'Université populaire des religions de Nîmes. Bonjour à vous, M. Cadenne, et
bonjour.
Merci d'être de nouveau avec nous dans votre santé et un trésor sur Radio Alliance Plus. Le sujet que j'ai voulu aborder avec vous aujourd'hui et qui me semble fondamental est la liberté de conscience et là où les clauses de conscience dans le domaine des soins. La liberté de conscience, là où les clauses de conscience sont très importantes et fondamentales en médecine. Par exemple, le soignant dans sa déontologie s'interdit de contraindre ses patients. Il soigne mais ne juge pas et ne doit en aucun cas faire de prosélytisme. Il doit respecter toutes les personnes qui ont le droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Tout d'abord, quel sens il faut donner au terme « conscience » dans cette déclaration ?
Effectivement, c'est un sens majeur et profond et large. La liberté de conscience est un principe fondamental, c'est une liberté de valeur constitutionnelle, c'est le fondement de notre laïcité. Effectivement, donc, rappeler que l'État doit assurer la liberté de conscience, c'est rappeler que l'État doit à la fois garantir la liberté de croire, de ne pas croire, celle de ne plus croire, celle de recroire, celle aussi tout simplement d'exprimer une conviction, une croyance, y compris dans l'espace public, dès lors qu'on ne trouble pas l'ordre public, c'est-à-dire les questions de santé, de sécurité publique, et dès lors que l'on ne l'impose pas à autrui. Donc c'est une liberté extrêmement large qui, dans son application, couvre une liberté absolue, c'est-à-dire le droit de penser, évidemment, et aussi une liberté d'expression qui, elle, peut avoir des limites, évidemment. J'en ai dit un mot à l'instant. Et dans le cadre de la santé, eh bien, la conscience, ça renvoie aux convictions personnelles, intimes, à ce qu'il y a de plus cher pour chacune et chacun. Et effectivement, ça renvoie tant pour le patient que pour le praticien à une responsabilité et à une possibilité de refus dans un cadre tout de même encadré, justement.
D'accord. Alors, pouvez-vous nous dire, en deux mots, sur la Convention européenne des droits de l'homme, cette juridiction internationale instituée en 1959 par le Conseil de l'Europe, ayant pour mission d'assurer le respect des engagements souscrits par les États signataires de la Convention européenne des droits de l'homme.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Parce qu'on le cite souvent, mais je ne suis pas sûr qu'on ait des notions. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques lignes ?
Oui, la Convention européenne des droits de l'homme, justement, quelque part, par son application, a permis d'assurer dans l'ensemble des pays membres, des États membres de cette Convention, tout du moins ceux qui sont membres, mais qui appliquent réellement, concrètement, le respect de cette Convention, a permis, quelque part, de diffuser des fondamentaux de notre laïcité. Vous avez tout un tas d'États européens qui, sans être laïque au sens où on l'entend et constitutionnellement, vont appliquer des fondamentaux de la laïcité tels que nous on les conçoit, et notamment ceux qui sont rappelés dans la Convention européenne des droits de l'homme et notamment dans son article 9.
Oui, on va y revenir.
Voilà. Donc,
parce que, excusez-moi, mais il y a des pays européens qui sont des royaumes mais qui sont laïques en fait.
C'est ça. Effectivement, le Danemark ou le Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, non d'ailleurs. Sur le coup, le Royaume-Uni, on ne pourrait pas dire que c'est un État laïque en ce que Outre qu'il y a une église d'État, l'église anglicane, au-delà de cela, il y a une possibilité au Royaume-Uni d'avoir des arbitrages privés sur certaines affaires qui sont fondées sur du droit coutumier ou du droit religieux qui va ensuite être accepté, reconnu par le juge civil. Alors qu'en France, évidemment, une république laïque, on est toutes et tous soumis aux mêmes droits et il n'y a pas de droit distinct selon son appartenance propre à une communauté ou à une religion. Donc c'est vrai que là-dessus, le Royaume-Uni n'est pas laïque. Après, en revanche, c'est quand même un pays où il y aura respect de la liberté de croire ou de ne pas croire Et normalement, tout le monde sera traité de la même manière, quelle que soit sa conviction ou sa confession, par l'État. Et effectivement, au Danemark, par exemple, également une monarchie, là, on est vraiment dans une logique où on a un droit commun à toutes et tous et une totale liberté de croire ou de ne pas croire, une égalité de traitement. Effectivement, donc la plupart des États européens, sans être strictement laïques tel qu'on l'entend, ont quand même les fondamentaux de la laïcité, et notamment donc cette liberté de penser, de croire, de ne pas croire, accordée à tous, et cette égalité, ce refus de toute discrimination qui serait fondée sur une appartenance religieuse ou une conviction, évidemment.
D'accord. Alors, lorsqu'on parle de liberté de conscience ou de clause de conscience, de quoi parle-t-on ? Alors, la Convention européenne des droits de l'homme exprime dans son article 9, hein, vous l'avez cité, mais bon, je vais le citer, « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La clause de conscience permet à un professionnel de ne pas se soumettre à un acte si ce dernier est contraint à ses convictions. Par exemple, pour un soignant, la clause de conscience, c'est sauf urgence. Hein, c'est très important. Oui. La notion d'urgence en médecine, hein, c'est important. Pour le médecin, par exemple, le droit de refuser la réalisation d'un acte médical pourtant autorisé par la loi, mais qu'il estimerait contraire à ses convictions personnelles, professionnelles ou éthiques. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, avant de vous laisser la parole, la notion d'urgence en médecine. On le voit actuellement et beaucoup de patients se plaignent avec des confrères actuellement. Je ne suis pas bien, ça ne va pas, quand vous pouvez me recevoir, venez dans 4 jours. Mais s'il y a urgence, il y a un problème là actuellement, et les soignants se mettent en difficulté. Quelqu'un vous dit « j'ai oublié mon renouvellement de paracétamol que je prends, il m'en reste 2 », ben vous pouvez venir dans une semaine, il n'y a pas d'urgence. Mais si quelqu'un vous dit « j'ai mal au ventre », ça peut être quelque chose de banal, une flatulence qui perturbe, mais ça peut être une péritonite. Ouais. Tant que vous n'avez pas vu la personne, examiné la personne, vous ne pouvez pas dire si c'est urgent ou pas. Moi, j'ai vu des urgences que personne... Et puis des urgences qui n'en étaient pas. Donc ça, c'est très important, la notion d'urgence. Et dans l'urgence, le médecin doit agir. Hein, ça, c'est fondamental. Le soignant, en général, hein, l'infirmière, pareil, on est soumis, même si ce n'est pas... voilà. Donc maintenant, je vous laisse la parole sur l'article 9.
Alors effectivement, en fait, cette clause de conscience, justement, vous l'avez dit, elle repose sur la liberté de conscience. La liberté de conscience, je l'ai dit, est un principe à valeur constitutionnelle, également donc reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme, donc encore au-dessus. Et effectivement, donc, il est considéré, en tout cas en France, même s'il y a débat, hein, on le sait, sur son maintien entier, il est considéré à ce stade, en effet, comme une clause relevant de la liberté de conscience des médecins, parce que, effectivement, vous l'avez dit, il s'agit de lier l'acte avec les convictions intimes du praticien, à savoir est-ce qu'il est en capacité de faire un acte qui s'oppose profondément à son code intime et personnel. Et là, effectivement, ça renvoie à ses convictions morales, à son éthique profonde. Et donc, en France, il est considéré que lorsque ça s'oppose profondément à sa morale, à son éthique profonde, le médecin va pouvoir refuser de pratiquer l'acte. Pour autant, comme c'est un droit, cet acte en question, cet acte doit pouvoir être pratiqué par quelqu'un d'autre. Et donc, c'est là où il y a l'équilibre, c'est-à-dire que comme on est dans un état laïque, dès lors qu'il y a un droit, il doit être appliqué, le même droit pour toutes et toutes, mais en même temps, il y a la liberté de conscience du médecin. Et donc, c'est cet équilibre qui est trouvé, c'est que, ok, le médecin peut tout à fait, de fait, sa clause de conscience, ne pas pratiquer l'acte, mais il doit donc immédiatement renvoyer le patient ou la patiente vers un collègue qui pourra pratiquer l'acte, pour que l'acte, néanmoins, qui est un droit, soit fait et soit réalisé au patient et à la patiente qui le demande. Donc c'est là où on trouve l'équilibre, c'est que le médecin n'est pas obligé de le faire, mais qu'en même temps, la patiente ou le patient recevra cet acte par quelqu'un d'autre qui, lui, ne verra pas de difficulté à pratiquer cet acte. Et c'est pour ça, vous l'avez dit, que le médecin, quand il ne le fait pas, cet acte ne peut pas faire de prosélytisme. C'est-à-dire qu'il a juste à dire « je ne peux pas le faire, mais je vous renvoie vers telle personne qui pourra le faire » sans préciser le pourquoi il ne peut pas le faire, pour ne pas, en effet, chercher à convaincre le patient ou la patiente. Ça regarde le patient ou la patiente. Et donc, pas de prosélytisme, mais simplement possibilité de refuser l'acte du fait de sa liberté de conscience. Mais l'acte devra être pratiquer. On en parle souvent, on le sait, par rapport à l'interruption volontaire de grossesse, votée par la loi Veil, donc il y a maintenant une cinquantaine d'années. Ça, c'est un droit reconnu à toutes et tous, qui peut être refusé par un médecin, mais qui n'a pas à dire pourquoi. Et simplement, il doit pouvoir renvoyer la personne, la patiente, vers un autre médecin qui pratiquera l'acte dans les délais.
Alors, un fait très important pratique, c'est que le médecin, quand un patient demande une... ça peut être par exemple, vous avez cité les légers, bon, ça peut être par exemple un problème d'esthétique.
Tout à fait.
En disant non, moi je pense qu'il n'y a pas de chirurgie à faire, vous n'en avez pas besoin, on prend un risque.
Inutile, oui.
Inutile, donc moi en tant que médecin, je ne vois pas, il n'y a pas le rapport risque-bénéfice, n'est
tout
pas,
à fait.
Voilà, c'est pas uniquement...
Bien sûr.
Ça existe souvent.
Ah, mais ça c'est très, très courant.
Voilà,
très courant.
Alors ce que les gens doivent savoir, ce que les médecins doivent savoir aussi, c'est qu'il ne suffit pas de refuser, mais il faut que le dossier soit passé à un confrère qui soit favorable et ne pas faire perdre de temps.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas manipuler la situation.
C'est ça.
Pour ne pas influencer directement en disant ah, mais attendez.
Finalement, pour empêcher l'acte.
Et puis en disant ah non, mais la date est passée,
exactement.
Etc. Alors ça, c'est fait. C'est quelque chose. C'est de l'honnêteté intellectuelle,
exactement.
Médicale.
Hein.
Un patient vient vous demander quelque chose, le médecin a le droit de refuser par rapport à ses opinions. Hein. Jusqu'à présent, vous êtes en train de discuter. C'est une discussion qui se passe au niveau politique, sociétal.
Voilà. Après, je ne pense pas qu'elle soit remise complètement en cause, mais elle risque en effet, dans les années à venir, à être limitée.
Voilà, limitée. Mais aussi, il ne faut pas non plus utiliser les procédures
bien
ou les
sûr.
Choses comme ça. Il faut téléphoner tout de suite. Je vous donne un exemple. Il faut tout de suite téléphoner à un confrère.
Exactement.
Qui soit d'accord et transmettre le dossier.
Exactement. Et de même, il faut rappeler, vous l'avez un peu dit, hein, que la clause de conscience, elle est en revanche inopposable en cas d'urgence vitale.
C'est-à-dire que s'il y a une urgence vitale,
l'acte doit être réalisé.
Mais alors là, bon, c'est exceptionnel parce que les actes d'urgence vitale, il n'y a pas de.
Bien sûr.
Ça peut exister, quoi. Mais bon, le seul problème, moi, je le rencontre, c'est quand on est obligé de pratiquer en pays étranger ou en avion. Voilà. Alors là, c'est une clause de bon sens, c'est-à-dire que si vous êtes. Alors ça m'arrive. Si vous êtes au-dessus d'un pays et qu'il se passe quelque chose dans l'avion, vous n'avez pas le droit de pratiquer. Mais si jamais il y a une urgence, le médecin dit en disant « j'ai pas le droit de pratiquer, mais je suis médecin, j'ai la connaissance, la personne est en danger, donc je mets... » Alors, ça c'est un choix, donc je pense qu'il faut choisir le bien du patient, après ça se plaide. Et puis on a sa conscience pour soi, même si on peut avoir des ennuis. Mais moi j'ai rencontré un cas particulier, des maisons de retraite, où le suivi des personnes âgées était impossible par rapport à l'ambiance. Donc, disait, moi, je ne peux plus être libre dans mes actes tels que je veux. Je ne peux plus suivre mon patient comme je veux, la famille. Donc, désignez-moi un médecin rapidement ou si vous ne pouvez pas, je cherche un médecin et à ce moment-là, transmettre le dossier. Le dossier, ce n'est pas forcément le dossier papier, parce que c'est le dossier il est. Hein, mais c'est simplement les idées, ce que j'ai, l'histoire, le ressenti, l'expérience, ça peut se faire oralement. Hein, donc ça, c'est très, très important. Et on peut être dans la clause de conscience. Il y a des cas, comme vous avez dit, l'IVG, tout ça. Mais c'est aussi, en pratique, l'impossibilité de pratiquer la médecine qu'on veut en disant « je ne fais... » Pour moi, c'est de la mauvaise médecine, c'est du mauvais soin. Je me refuse à faire ça. Et donc, dire à la famille, on voit toujours le pire, hein, ça peut toucher tout le monde, ça. Hein. Et donc là, non, je ne peux pas, dans cette ambiance, on ne me donne pas les moyens. Ça peut se faire avec un directeur d'hôpital, de clinique, en disant, là, je ne peux pas réaliser l'intervention dans de bonnes conditions. Donc, je ne peux pas la faire, donc c'est une perte de chance. Donc, c'est très... Il faut voir quand même la pratique aussi, il faut se voir par rapport... aux gens qui pratiquent.
Et on peut rebondir aussi sur la liberté de conscience côté patient. Le patient peut aussi refuser des soins, mais là encore, il y a une limite, c'est l'urgence vitale, où là, si le médecin outrepasse le refus, pendant longtemps, c'était compliqué. D'ailleurs, il y avait une jurisprudence qui n'était pas fixée. Et parfois, le juge a pu condamner des médecins qui étaient intervenus. Désormais, le juge ne condamne plus le médecin si le médecin intervient en urgence vitale face à un patient qui avait refusé le soin parce qu'il en allait de sa vie. Mais effectivement, s'il n'y a pas urgence vitale, le patient peut refuser un soin et même signer une décharge et sortir.
Voilà, mais alors l'urgence vitale, en principe, le problème, c'est que le médecin est confronté à ce qu'on appelle une urgence vitale, c'est qu'il n'a pas les antécédents, l'histoire du patient. Donc il est obligé d'agir. Si le patient ne veut pas être animé, le médecin n'est pas obligé de le savoir. Alors, après, il peut y avoir un conflit en disant « mais moi, je ne voulais pas être animé, je l'avais dit ». Il dit oui, mais attendez, moi, je ne vous connaissais pas, je vous ai vu, vous avez eu un malaise.
C'est ça. C'est toujours difficile. Et ça a créé des vrais contentieux, mais désormais, le juge va plutôt protéger justement le médecin là-dessus, alors qu'il y a eu, dans le passé, il y a pu y avoir des condamnations. On l'a vu, cette question, surtout par exemple sur la transfusion sanguine.
Certaines communautés. Alors, avant notre pause musicale, nous pouvons lire aussi que nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. Quelles peuvent être ces contraintes? Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un pour le contraindre de ne pas croire, hein?
Pour le contraindre
mais parce que je l'ai lu, nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté, on parle des patients quoi, hein, dans l'article, d'avoir ou d'adopter une religion, une conviction de son choix.
Oui, c'est ce qu'on vient de dire, effectivement, et d'ailleurs ça renvoie aussi à l'article 31 de la loi de 1905, qui est la loi vraiment, j'allais dire, qui fixe le cadre général de notre laïcité en France, qui rappelle qu'on ne peut pas forcer autrui à une quelconque pratique culturelle, et dans l'autre sens, on ne peut pas non plus l'empêcher d'avoir une pratique culturelle. Non. Ça va dans les deux sens. Là encore, c'est pour garantir cette liberté totale de conscience de chacun. Chacun croit en ce qu'il veut dès lors qu'il ne l'impose pas autrui. Et en revanche, si on impose à quelqu'un une quelconque pratique culturelle, il est sanctionnable, il est condamnable.
Alors, je vous propose une table musicale avec une musique dite d'hiver. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui monsieur Nicolas Cadenne. Alors, toujours cet article 9, liberté de pensée, de conscience et de religion, dans son alinéa 2, stipule la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'aucune restriction que celle qui, prévue par la loi, constitue des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé, de la morale publique ou de la protection des droits et libertés d'autrui. Pourquoi de la santé dans cet alinéa? Ça m'a surpris quand je l'ai lu.
Pourquoi ça vous a surpris? Ça m'intéresse de savoir pourquoi ça vous a surpris.
Mais parce que je ne vois pas ce que la santé vient faire là, quoi. Au niveau de la protection de l'ordre, de la moralité publique, est-ce que ça peut avoir une atteinte à la santé?
Oui, il peut y avoir des expressions qui...
C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, excusez-moi de vous interrompre, quelqu'un qui a une religiosité, une spiritualité, ce n'est pas pareil. Je faisais une formation lundi, je dis la spiritualité, vous pouvez avoir la spiritualité dans la beauté de la nature. La religiosité, il faut une divinité. Et c'est deux choses différentes. La spiritualité devant le beau, c'est la spiritualité. La religiosité, il faut un morceau de beau en disant c'est une divinité. Alors, c'est vrai que si on empêche quelqu'un d'avoir une religiosité, des rites, etc., il peut y avoir une pathologie. Ça, on le voit en médecine. Pathologie due à la religion. Il y a un livre à écrire, hein. Les pathologies dues à la religion.
Ouais, hein,
parce que moi, je l'ai écrit sur les pathologies réduites par la religion.
Ouais, tout à fait.
Mais il y a des pathologies induites par la religion,
hein,
quelle que soit la religion.
Oui, par certains courants, certaines interprétations.
Quelle que soit la religion.
Bien sûr.
En plus, moi, je viens de l'Aisne, où on dit qu'il n'y a pas de sacrifice. En fait, il y a eu au 8e siècle des sacrifices humains, des immolations de guerriers à des divinités.
Ouais.
Donc, c'est intéressant. Alors, c'est pour ça que je voulais avoir votre
avis. Il y a cet aspect-là, évidemment, dans l'aspect le plus caricatural. Mais, par exemple, vous pouvez avoir des manifestations religieuses qui vont... potentiellement causer des questions de santé publique. Quand vous avez des questions d'abattage rituel dans certaines de nos grandes religions, il peut y avoir une question de santé publique. Quand il y a des grandes fêtes sur l'espace public, il peut y avoir des questions de santé publique. Et donc, en effet, ça renvoie à la notion d'ordre public que j'évoquais tout à l'heure, qui recouvre à la fois les questions de sécurité, les questions sanitaires, et les questions de santé. C'est-à-dire qu'effectivement, une manifestation religieuse ne doit pas mettre en cause la santé publique, les normes sanitaires.
D'accord.
Ça, il faut l'entendre comme ça.
Voilà, et donc, effectivement, je voyais en tant que praticien la santé du patient.
Il faut plutôt l'entendre comme ça. Après, la santé du patient, vous avez donné des cas extrêmes sont vrais aussi. Il peut y avoir des dérives sectaires qui cause des vrais problèmes de santé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en voit beaucoup. Hein. Et c'est plus complexe, d'ailleurs. Ce sont des dérives sectaires beaucoup plus complexes à identifier que celles du XXe siècle qui étaient liées, par exemple, au Temple solaire ou autre, qui étaient très collectives, très massives. Et donc, on identifiait tout de suite.
Extrême, là, ouais.
On savait quel était le problème. On pouvait intervenir. Désormais, ça va être des dérives très individualisées, très autonomes, où vous allez avoir des pseudo-médecins qui n'en sont pas et qui vont prodiguer des soins qui n'en sont pas et qui peuvent mettre en danger la santé de la personne. Et là, c'est un vrai danger aussi. Chaque année, il y a des victimes de,
ah oui, de cela. C'est quelque chose de très...
Alors là, de charlatan.
Le rencontre, le praticien le rencontre.
Eh oui.
Là aussi, il est tenu au secret, mais il est tenu au discernement. Alors, non pas pour religieux, mais au discernement du bon soin. En disant, mais attendez, vous n'avez pas... Alors, ce que les médecins ne savent pas, et les gens vous le disent, alors c'est vrai ou pas, c'est bien souvent faux. J'avais un feu quelconque, on parle beaucoup de feu, hein, et la médecine ne pouvait pas... C'est le médecin qui m'a dit d'aller voir le rebouteux. C'est souvent faux, d'abord parce que les médecins ne le connaissent pas, et puis... mais le médecin n'a pas le droit d'adresser à quelqu'un qui ne fait pas de la médecine. C'est une faute grave en disant, mais allez voir Madame Machin, elle fait le soleil, c'est une faute grave où ses pères pourraient le condamner. Et il faut faire très attention en disant, allez là, si ça ne vous fait pas de mal, ça ne vous fera pas de bien. Non, 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 il faut que ça fasse du bien. On n'est pas dans l'aléatoire, on n'est pas tenu à du résultat pour l'instant. Mais on doit mettre les moyens, et le moyen de « ça ne vous fait pas de mal, ça ne vous fait pas de bien », ce n'est pas médical, ça, c'est toujours...
Et voilà. on a des difficultés aujourd'hui aussi avec ce qu'on appelle les coachs de vie. Hein. Il y en a, ça ne pose pas de problème, il y en a, ça pose vraiment problème. Et effectivement, ça a une incidence sur la santé des patients, là encore, avec des coachs de vie qui vont conseiller le non-suivi d'actes médicaux parfois.
Tout ce qui est emprise.
Emprise aussi. Oui,
emprise, il y a l'emprisme et l'entrisme, c'est deux choses différentes.
Ouais, pas, hein.
Alors ça, il faut savoir que les médecins sachent et que les patients sachent qu'il y a une structure, ça serait peut-être intéressant de faire une émission là-dessus, qui est la Midi-Luve.
La Midi-Luve,
hein, donc il faut moi j'étais en relation avec eux, donc je connais bien le pourquoi des tenants et des aboutissants, parce que en tant que responsable
la mission
de la profession.
Vigilance de lutte contre les dérives sectaires.
Voilà, hein, en tant que responsable professionnel, je travaille avec eux. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors, on a parlé beaucoup de clauses de conscience des soignants et l'IVG, hein, par son inscription dans la Constitution française. Qu'en est-il exactement? Puisque maintenant, l'IVG est dans la Constitution. Donc, est-ce que le médecin peut dire à une clause de conscience opposable?
Comment on l'a un peu abordé plutôt, dans la question de l'IVG, en effet, le médecin peut simplement faire jouer sa clause de conscience pour ne pas pratiquer l'IVG, mais il ne doit pas dire la raison de ce refus et il doit immédiatement renvoyer la patiente vers un autre praticien qui, lui, pourra pratiquer l'acte, car c'est un droit, vous l'avez dit maintenant, de valeur constitutionnelle et qu'effectivement, tout le monde doit pouvoir avoir accès à cet acte. Et donc, évidemment, vous l'avez aussi évoqué, le médecin qui refuse, pour une raison qu'il doit garder pour lui, ne doit pas renvoyer vers un autre praticien dans un délai qui serait au-delà voilà, du délai autorisé pour faire pratiquer l'IVG.
Alors, un projet de loi dont on parle au moment où on enregistre l'émission, certainement verra le jour sur l'aide à mourir. Qu'est-ce qui est prévu d'envisager ou qui sera envisagé, bon, ce sont des supputations évidemment, comme clause de conscience pour l'aide à mourir en ce qui concerne les soignants?
Mais tant que la clause de conscience n'est pas remise en question, même si en fait c'est deux débats un peu parallèles, pour le moment la clause de conscience n'étant pas remise en question, dans la même manière, si effectivement ce projet de loi aboutit et que donc l'aide à mourir en fin de vie les critères de cette aide sont plus nombreux qu'aujourd'hui et donc il est plus simple pour un médecin d'aider une personne qui le souhaiterait à mourir. Si ce projet de loi aboutit, ce sera le même système. Un médecin pourra ne pas le faire, ne pas faire cette aide à mourir, mais il devra tout de suite transmettre le dossier, ou même transmettre le dossier si la personne en question peut pas se déplacer, le patient, transmettre le dossier à un autre praticien qui pourra le faire.
Eh bien, Nicolas Cadenne, je vous remercie à nouveau de nous avoir éclairé et fait réfléchir sur ces notions qui sont fondamentales et qui nous touchent toutes et tous et qui nous toucheront.
Bien sûr.
Là, on a l'impression d'être abstrait.
Mais en réalité, c'est très concret.
En tant que praticien, c'était mon quotidien, quoi. Donc, merci généreusement à vous.
Merci à vous.
Je souhaite signaler encore une fois que vous avez un site que l'on peut consulter qui est www.nicolascadenne.fr. J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé. Aujourd'hui, j'ai demandé à M. Cadenne de nous citer un ou des ouvrages. Nous pouvons citer deux de ces livres. Nous reparlerons d'un livre important, Nicolas Cadenne, La laïcité pour les nuls, First Edition, réédition 2017, parce que ce sont des bibles maintenant. Ouvrage de collection sous la direction de, alors je prononce mal, Mbélix Nabli, oui, Laïcité de l'État et l'État de droit, par édition Dalloz. Dalloz, c'est quand même une référence aussi éditoriale, 2019, 242 pages. Merci encore à vous, M. Cadenne.
Merci à vous.
Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle mon annonce pour l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre Santé un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.